Ensemble, ici, Radio Liv, la radio des initiatives.
Bonjour à toutes et à tous, ici Théo pour Radio Liv avec Aymeric à la technique. On est le 21 décembre 2015 à l'abbaye Vinsobrez à Vinsobres et nous sommes pour la troisième fois avec Guy Tanjali et Lucas de l'association Mare Nostrum pour une invitation au voyage au travers des cultures méditerranéennes. Donc bonjour Guy Tanjali et bonjour Lucas.
Bonjour Théo.
Bonjour.
Après le Maroc puis la Croatie, on continue aujourd'hui le voyage et vous nous emmenez en Albanie.
C'est ça. Alors comme le disait Théo, on vous a quitté la dernière fois en Croatie. Donc on est parti le 28 février de Dubrovnik, donc au sud de la Croatie. On a traversé très très rapidement la Bosnie-Herzégovine, hein, parce qu'il y a 4 km de territoire au sud de la Croatie.
Très et rapidement, puis on... mais avec une belle fouille en règle à la frontière.
Oui. Et puis on a ensuite traversé le Monténégro, donc assez rapidement aussi. On a juste passé une nuit dans une ville sur la côte. Et puis on est arrivé en Albanie. Alors, juste deux, trois mots sur le Monténégro. On a pu remarquer que le pays était dans un état de délabrement assez avancé. Tout de même, c'était très pauvre. Et puis nous, en fait, on a longé le contour du lac Shkodër, qui est partagé entre le sud du Monténégro et du coup le nord de l'Albanie. Donc c'était des toutes petites routes de montagne et en arrivant petit à petit vers l'Albanie, on a pu remarquer des cimetières musulmans, donc des petites tombes assez mignonnes, assez rigolotes avec des petits chapeaux au bout, donc qui représentent les chapeaux des fès ou des chapeaux musulmans.
Des turbans.
Et donc on arrivait donc petit à petit en Albanie où la religion principale est l'islam.
Dans notre court passage du coup au Monténégro, on s'arrêtait dans une ville qui s'appelait Budva. Et dans laquelle on a dormi, on a loué un appartement juste pour une soirée à un jeune monténégrin à qui on a dit, on a expliqué notre plan d'aller en Albanie et de continuer après vers le sud. Et il nous a dit, mais vous allez en Albanie, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? En gros, c'est le pays le plus sale que j'ai jamais vu de ma vie. Et puis de toute manière, les Albanais, c'est vraiment pas des gens sympathiques. Et de toute manière, nous, dans les Balkans, on s'aime pas trop les uns les autres. Ce qui résume assez bien l'ambiance qu'il y a dans les Balkans et ce qui était un drôle de préambule à notre arrivée en Albanie. Donc ensuite, après avoir longé le magnifique lac de Shkodër, on arrive à la frontière albanaise, à un tout petit poste frontière. Et là, donc on se présente devant le garde frontière qui commence à nous parler en albanais. L'albanais étant une langue qui est un sous-groupe, elle toute seule, dans la grande famille des langues indo-européennes. Donc une langue qui ne ressemble à rien d'autre de connu. Enfin, que nous connaissons en tout cas. Et donc, il commence à me parler, à déblatérer en albanais. Et moi, j'essaie de lui expliquer en anglais que ben, je ne comprends pas, je ne peux pas lui répondre. Et il continue. Et donc, pendant 5-10 minutes, on joue ce petit jeu-là. Puis au bout d'un moment, d'un air lassé, il me fait « Bon, allez, circuler. » Et donc, on rentre sur le territoire albanais en se demandant si on va pouvoir ressortir parce qu'on n'a pas du tout de tampon dans nos passeports. Alors, l'Albanie. On arrive en Albanie et là, on est quand même... bien content d'y arriver parce qu'on avait envie d'y arriver. C'était une étape qu'on attendait vraiment dans notre voyage parce que c'est un pays qu'on connaît vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est un pays qui était synonyme de mystère, de découverte. Déjà, l'Albanie, ça s'appelle pas Albanie en albanais, ça s'appelle Shqipëria et ça veut dire le pays des aigles. Comme le drapeau de l'Albanie qui est un aigle à deux têtes sur fond rouge. Donc l'Albanie, où c'est? On nous a demandé tout à l'heure où c'est l'Albanie. Bon, je vais vous faire toutes les frontières que l'Albanie a. Donc, il y a le Monténégro au nord. Au nord-est, il y a le Kosovo ou la Serbie, selon qu'on reconnaît ou pas l'indépendance de ce pays-là. À l'est, il y a la Macédoine. Et donc, au sud, il y a la Grèce. L'Albanie, c'est un pays qui est tout petit, qui est étroit et allongé. Donc, dans sa longueur maximale du nord au sud, il fait 340 km. Et dans sa largeur maximale d'est en ouest, il fait 150 km.
Il y a un peu moins de 3 millions d'habitants. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Alors, un peu nos premières impressions quand on arrive en Albanie. Donc, on passe ce poste frontière. Il est déjà, je pense, 3 ou 4 heures. En hiver, du coup, comme le jour tombe tôt, voilà, c'est presque la fin de la journée. Et... La première impression qu'on a, c'est oh mais on est de retour au Maroc. Alors pourquoi ça? C'est C'est parce qu'on, déjà, on voit des gens le long des routes qui marchent, comme au Maroc. Et on voit des triporteurs, des animaux partout.
Des marchands ambulants.
Oui, des marchands de lapins sur les bords des routes. C'est vraiment encore très traditionnel, très peu urbanisé. Et donc, on a un peu cette impression-là du Maroc, qui est finalement aussi très peu urbanisé. Donc, on retrouve un peu la même ambiance.
La conduite albanaise aussi est assez similaire et assez chaotique, du coup, à la conduite marocaine.
Donc on va prendre la route jusqu'à Tirana, donc, qui est la capitale et qui est à 100 km au sud de la frontière. On arrive de nuit, on arrive en centre-ville à côté d'une vieille mosquée. Et là, on va attendre nos hôtes, donc la professeure avec qui on travaille donc, dans l'école Emine Douraku à Tirana et notre première hôte. Donc on arrive chez Claudia.
Claudia Toto, si je me rappelle bien de ton nom de famille, qui donc va nous héberger 4-5 jours chez elle. Donc elle nous récupère, elle est absolument effarée de nous savoir voyager dans un van aussi pourri, elle est terrorisée pour nous, et elle nous emmène dans son parking privé, enfin qui était un parking privé pour tous les gens du quartier en fait, et elle nous fait monter dans son appartement, dans un grand immeuble, et on arrive dans un appartement qui est assez cossu, et donc on se dit, bon ben on a sûrement affaire à une Albanaise qui est relativement aisée.
Ouais, en fait, Violza, qui est la professeure avec qui on travaille, a choisi 3 familles pour nous accueillir. Et comme elle voulait qu'on soit accueillis le mieux possible, elle a soigneusement sélectionné les personnes qui allaient nous accueillir. Et finalement, on se rend compte qu'au bout de ces 10 jours à Tirana, on a côtoyé seulement un certain milieu. C'était quand même très, très agréable. Et Claudia est vraiment très gentille. Elle va vraiment... elle nous accompagne, elle nous chouchoute, elle nous amène un peu partout à Tirana, dans les lieux qu'elle fréquente. Et puis, on va, dès le jour d'après notre arrivée, rencontrer les élèves de l'école Emine Douraku avec qui on travaille. Et alors là...
Il nous réserve un accueil triomphal avec spécialité culinaire, bouquet de fleurs, spectacle improvisé... récitation de poèmes et tout le tremblement. Et donc, on passe juste ce moment-là avec eux. On les verra à plusieurs reprises dans le courant de la semaine. Et après, on passe le reste de la journée avec Claudia. L'occasion un peu pour nous de poser des questions sur ce pays-là. Claudia parle français, ce qui est donc pratique pour nous. Donc, on lui demande pourquoi elle parle français, comment ça se fait. Et là, on se retrouve confronté à l'histoire de la dictature communiste qui a sévi en Albanie pendant 50 ans. Dont le dictateur était Enver Hoxha. Et elle nous explique que sa mère et ses grands-parents maternels étaient donc français et s'étaient réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale en Albanie pour échapper à la guerre, que sa mère s'est mariée avec un Albanais et qu'ensuite, suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la mise en place de la dictature communiste, ses grands-parents maternels ont subi la répression du régime communiste qui était très dur envers les Albanais. Et donc ses grands-parents ont été arrêtés et placés en détention. Et finalement, sa mère a réussi à s'enfuir avec ses parents. Et elle a dû abandonner donc, sa fille, qui est restée avec son père donc, en Albanie.
Là, c'est l'histoire de Claudia, mais c'est aussi l'histoire de toutes les personnes avec qui on va échanger, qui ont des passés très, très durs et très, très lourds. On ne vous l'a pas encore dit, mais effectivement, si ce pays est encore autant rural et si peu moderne, c'est qu'il a subi une dictature très, très, très lourde pendant très longtemps.
En 50 ans, de 1944 à 1990-92 à peu près.
Et du coup, le pays était complètement fermé. C'était une dictature communiste, donc au départ, ils étaient un peu ouverts dans le sens où ils avaient des échanges d'abord avec l'URSS, puis avec la Chine. Mais petit à petit, le pays s'enferme vraiment, vraiment. Et ils n'ont plus aucune relation avec l'extérieur. Donc, ils ne savent pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, ils n'ont pas de voiture. Jusque dans les années 90, personne n'a de voiture, à part...
les militaires et les dirigeants.
Donc, c'est un pays qui est resté très tard, très fermé, ce qui a aussi conservé les traditions. Donc, d'un côté, c'est assez intéressant quand on y va. Mais de l'autre, ça explique pas mal de choses.
Donc, on est confronté assez rapidement et continuellement à ce passé communiste douloureux, même si nous, on n'ose vraiment pas l'aborder avec les gens parce qu'on imagine qu'il y a plein d'histoires assez dures qui se cachent derrière ces périodes-là. Donc, c'est par petites touches qu'on va y arriver. Par exemple, une fois avec le fils de Claudia, on est à table avec lui. Et il nous explique un petit peu l'histoire du pays, et il nous explique qu'à la fin du régime communiste, Il y a un exode massif, je ne sais plus combien d'Albanais, de millions d'Albanais fuient le pays. Et donc nous, il nous dit des chiffres qui sont tellement étonnants qu'on n'arrive pas à les imaginer. Et il nous sort cette phrase, imaginez-vous, vous êtes en prison et tout d'un coup, la prison ouvre ses portes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez dedans, vous? Ce qui expliquait de manière limpide pourquoi il y avait autant de départs d'Albanie. Et départ qui continue, immigration qui est encore très très forte aujourd'hui. Par exemple, le pays, c'est un des seuls pays qui a un taux naturel positif, donc où le renouvellement de la population se fait naturellement. Mais la proportion d'habitants baisse quand même continuellement parce que les Albanais s'enfuient de ce pays-là.
Donc, après la famille de Clauda, on a été dans la famille des Tota. Et donc, de nouveau, alors on est encore dans le centre-ville de Tirana. On est encore dans une famille assez aisée. Le papa est urgentiste et la maman est directrice en chef des news d'une plus grosse des chaînes télé d'Albanie. Et par contre, on a très peu de temps avec eux parce qu'ils sont très occupés par leur métier tous les deux. Notamment parce qu'en ce moment, il y a un scandale politique très important en Albanie et donc la mère est en train de couvrir cet événement. On arrive tout de même à libérer une soirée avec eux, et on va manger dans un restaurant du centre-ville. Et au retour, on les voit tous les deux très inquiets, qui ne cessent de regarder les vitrines des bars, regarder les écrans télé, qui ont l'air assez inquiets. Et on finit par leur demander pourquoi. Et ils nous expliquent qu'il vient d'y avoir un attentat juste à côté de chez eux. Une bombe a explosé. Et en fait, c'est un des règlements de compte qui arrive souvent en Albanie à cause de ces conflits, de la corruption. On a parlé aussi avec la famille juste d'avant des Vendetta, qui sont encore finalement présentes en Albanie. Juste pour revenir sur les Vendetta, quand on était dans le sud de la Croatie, on a rencontré une jeune croate qui nous a dit « Oh, mais ils sont complètement fous en Albanie !» qui nous a fait très peur en nous disant qu'ils étaient complètement fous, que les Vendetta, c'était encore bien vivace, qu'il y avait beaucoup de vengeance, de sang, tout ça. Et nous, on est partis en se disant « Mais elle va pas bien, celle-là. » elle nous raconte, elle exagère vraiment. On pensait vraiment qu'elle exagérait. Et quand on en parle avec un Albanais, il nous dit « Malheureusement, non. » C'est pas de l'exagération, c'est que dans le nord de l'Albanie, il y a encore cette tradition en fait qui existe où il y a des familles qui sont complètement bloquées là-dedans et qui ont une loi qui fait que dès qu'on tue quelqu'un, il doit y avoir un mort en retour. Donc la situation est encore assez délicate.
Mais c'est vraiment un phénomène qui est cantonné au nord du pays et qui est donc vraiment pas représentatif, qui est sordidement pittoresque, mais qui ne représente pas la société albanaise aujourd'hui.
En fait, on a entendu des a priori de personnes du centre ou du sud qui nous disaient « Ah oui, les gens du Nord, c'était des personnes peu recommandables d'après eux. » Voilà, à cause de... Ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr, mais voilà, à cause de ce phénomène-là. Et donc, ils en parlent sans en parler aussi, je crois.
Le Nord est beaucoup plus pauvre que tout le reste du pays. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'émigration du Nord vers le Sud. Et c'est vrai que les Albanais ont l'habitude de dire que ça ne se fait pas tout le temps dans la joie et que les gens du Nord ne sont pas très fréquentables et sont responsables d'une partie de la criminalité dans le pays. Je ne sais pas si dans le pays, si ces actualités-là sont beaucoup présentées. Je pense que l'actualité est beaucoup plus centrée sur la situation politique et économique du pays, qui est quand même assez exsangue. Là, je peux parler du coup du scandale politique qui secouait l'Albanie quand nous on y était. C'était donc un député albanais qui appartenait au Parti socialiste, qui venait d'être viré de ce parti-là et qui avait été le président de l'Assemblée avait levé son immunité parlementaire. Et du coup, il avait déclaré publiquement que le président de l'Assemblée avait mis un contrat sur sa tête. Et il fallait savoir que ce député-là, il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient sur sa fortune qui serait issue de trafic douteux. Donc en Albanie, il y a une corruption qui est omniprésente à tous les niveaux de la société. Par exemple, dans la troisième famille où on a été à Tirana, un jour on discutait avec la nièce de notre hôte, qui était une jeune lycéenne, et qui nous expliquait qu'elle allait faire ses études à l'étranger, qu'elle voulait partir faire ses études à l'étranger, comme tous les Albanais, ou tous les parents albanais, qui veulent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, parce que l'éducation en Albanie est vraiment mauvaise. Et on lui demandait un peu pourquoi, et elle nous disait, mais l'éducation, ça vaut rien, les diplômes, ça vaut rien. De toute manière, il suffit de payer le professeur pour avoir une bonne note, donc ça vaut rien du tout.
Apparemment, même dès l'école primaire, on payait les professeurs pour avoir des bonnes notes, et les diplômes s'achètent. Donc il y a vraiment une corruption qui est super forte. Alors juste, depuis tout à l'heure, on dit quand même pas mal de choses négatives sur ce pays qui est vraiment magnifique. Et dans les trois familles où on a été, on a vraiment été accueillis, mais à bras grands ouverts. Je pense que c'est l'endroit, même peut-être, peut-être même plus qu'au Maroc, ou en tout cas au moins autant qu'au Maroc, on nous a accueillis vraiment comme des petits princes. C'était une obligation pour eux. On était tout le temps... les parents nous donnaient leur chambre carrément. C'est quand on arrivait, ils se pliaient en quatre pour nous. Et c'est vrai que c'était super agréable. Et à chaque fois qu'on rencontrait des gens plus ou moins aisés, des fois c'était des personnes très pauvres, ils étaient dans l'obligation de nous donner quelque chose. Ils pouvaient pas nous laisser partir sans un cadeau. Donc des fois on repartait avec une poire ou avec un gâteau parce que voilà, ils étaient là, vraiment là pour nous accueillir. Et donc j'avais envie de dire ça quand même. du coup, on va peut-être avancer dans notre péripétie. On a quitté Tirana pour se rendre un peu plus à l'est, dans la ville d'Elbasan, donc à 70 km de là, où on avait un second partenariat avec une autre école. Et donc là, on a été accueillis par Ilira Soupapali, donc la professeure de français dans cette école-là. Et on a cette fois-ci été hébergés par une Française, donc une professeure de français, mais française, parce que malheureusement, Ilira n'avait pas pu trouver des personnes pour nous héberger. Et on pense notamment, parce que ses familles étaient assez pauvres, on a eu l'occasion d'aller quand même plusieurs fois donc chez les Albanais. On était invités à manger ou à aller faire des visites, etc. Mais on s'est rendu compte que déjà que c'était compliqué pour eux de dormir tous dans leur logement, qu'ils avaient vraisemblablement pas la place de nous accueillir.
On peut enchaîner avec un petit extrait musical.
Tout de suite, un chant de liturgie byzantine.
Exactement.
Lagdi ati te birit edhe të pirti qenj, ta një për era e në jetë, jetë dhe të mi, shajti pavdekur, më shirona.
Donc on écoutait un chant de la liturgie byzantine que nous avait chanté un prêtre orthodoxe à Elbasan. Ce prêtre était un grand-père d'une petite fille qui se trouvait dans une des classes avec lesquelles on travaillait dans l'école. Donc on est dans le centre de l'Albanie et on écoute une musique orthodoxe, ce qui pourrait sembler étrange parce qu'on présente généralement l'Albanie comme un pays majoritairement musulman. Dans les faits, c'est vrai, puisque 70% de la population se dit musulmane, mais il reste quand même 30% qui sont chrétiens, donc 20% qui sont orthodoxes et 10% qui sont catholiques. Les Albanais aiment bien présenter leur pays comme un pays modèle pour le bon vivre ensemble des différentes religions, où il n'y a pas du tout de problème interreligieux. Et c'est vrai, et ça résulte d'une histoire quand même assez compliquée, que je vais peut-être pas développer là maintenant, mais quand même le pays était d'abord, donc au début était à majorité chrétienne, je veux dire, sur le territoire s'affrontaient donc le catholicisme et l'orthodoxie, qui étaient antagonistes. Après au XVe siècle, l'Empire ottoman a colonisé le pays de manière durable, donc une domination qui va s'étendre sur 5 siècles. Et qui va amener progressivement à une islamisation de la population qui n'a pas été forcée, parce que dans l'Empire ottoman, la tolérance religieuse était vraiment mise en place grâce à un système qui s'appelait le système du millet, qui faisait que chaque communauté religieuse dépendait directement du sultan, mais avait sa propre hiérarchie, sa propre structure administrative qui était chargée de récolter les impôts pour les reverser donc au sultan. Mais l'islamisation, en fait, s'est faite de manière plus sociale et économique, puisque les chrétiens devaient reverser des tributs particuliers au sultan et également fournir leurs enfants. Les familles devaient fournir des enfants pour grossir les rangs de l'armée. Donc voilà, c'est plus de ce point de vue-là que s'est faite l'islamisation progressivement sur 5 siècles de domination musulmane. Après ça, donc il y a eu l'indépendance de l'Albanie qui a été faite en 1912. Et rapidement, la religion est passée plus du côté de la sphère privée, alors qu'avant elle était du côté de la sphère publique, justement pour permettre à la société albanaise de se cimenter, non pas autour de considérations religieuses, mais plutôt d'un sentiment d'appartenance à une ethnie linguistique. Suite à ça, il y a la Seconde Guerre mondiale, et après la mise en place du régime communiste d'Enver Hoxha, qui va être implacable, qui va se tenter de détruire complètement le sentiment religieux en Albanie, jusqu'à interdire totalement la religion en 1967, et à déclarer en 1976 l'Albanie seul État athée au monde. Tout cela a fait que, en fait, les familles se sont vraiment mélangées, surtout pendant la période communiste. Donc maintenant, c'est très, très fréquent que quand on demande à quelqu'un si quelles sont les origines religieuses de ses parents, ils nous disent « moi, j'ai un parent musulman et un parent orthodoxe. Ben, moi, j'ai un parent chrétien et un parent orthodoxe. » Donc il y a vraiment une mixité là-dedans.
Et du coup, en général, quand on demande à un Albanais s'il croit en Dieu, il nous dit « oui ». Et après, en quel Dieu, il nous dit « c'est le même, on a tous le même. » Donc voilà, ils sont vraiment très ouverts au niveau de la religiosité.
Donc là, ce prêtre albanais juste nous expliquait l'histoire un peu de son église, qui avait été partiellement détruite pendant le régime communiste, mais qui avait été sauvée in extremis pour préserver son intérêt patrimonial, en fait. Il nous a même dit que c'était un des fils du dictateur qui avait empêché la destruction in extremis. Il nous a dit aussi qu'il avait très peu de moyens pour entretenir son église parce qu'il refusait de faire allégeance à l'église orthodoxe grecque qui, elle, dispose de beaucoup de pouvoirs financiers et fonciers, notamment. Et donc, il survit tant bien que mal comme ça.
Oui, il a refusé, en fait, de faire allégeance à l'église orthodoxe de Grèce parce qu'il l'obligeait à faire la messe en grec et... il veut la faire en albanais pour que les Albanais puissent comprendre. C'est pour ça qu'il n'est pas associé à eux. Du coup, à Elbasan, donc on a passé beaucoup de temps avec les écoles. C'était en fait la fête de l'été. Donc, c'est une ancienne fête païenne qui a été remise au goût du jour pendant la période communiste, puisque c'était païen, donc c'était bien. Et du coup, c'était un grand moment voilà, de fête pour les Albanais. Et donc, on a pu enregistrer nos écolières albanaises en train de faire des danses spéciales pour cette période et faire des chants. Et donc, on a pu apprendre à faire quelques danses albanaises. C'était assez rigolo. Et dans cette classe, il y a une petite fille qui s'appelait Gentiana qui s'est prise d'affection pour nous et nous a invités à passer un peu de temps chez elle. Et j'avais envie d'en parler parce que c'était vraiment un moment assez extraordinaire pour nous. On s'est retrouvés donc, dans cette famille très pauvre. Donc, elle vivait avec sa maman et ses deux grands-parents puisque son père était mort. Et donc, ils vivaient juste dans un salon et une pièce. Donc, dans le salon, il y avait un balcon, en fait, où il y avait la cuisine sur le balcon. Et donc, ils nous ont invités très simplement à venir manger. Et puis, en fait, comme le grand-père savait qu'on recherchait de la musique, il a sorti son accordéon et s'est mis à faire de la musique folklorique albanaise. Lucas l'a rejoint au saxophone et la grand-mère s'est mise à faire des danses traditionnelles albanaises. Gentiana aussi. Il y avait la prof, elle les a rejoints et moi aussi. Et du coup, on s'est retrouvés dans ce petit salon tout confiné avec Lucas qui faisait du saxophone et ce vieux grand-père qui faisait de la musique folklorique à danser tous ensemble. Et c'était un moment assez inoubliable. Donc j'avais envie de le partager avec vous.
Donc il jouait pour nous de la musique folklorique, mais c'est pas ce qu'il préférait jouer. Lui, ce qu'il préférait jouer, c'était le tango et le rock'n'roll. Et il nous expliquait qu'il, pendant des années, des décennies, il a pas pu jouer ces musiques-là parce qu'elles étaient interdites, étant musique issue des pays impérialistes, donc interdites par le gouvernement d'Enver Hoxha.
Alors peut-être qu'on peut passer à la dernière musique qu'on a prise à Elbasan avant de continuer nos aventures vers le sud de l'Albanie. Thank you.
Donc, c'est une musique qu'on avait enregistrée dans une école de musique privée à Elbasan. Je vais dire les instruments qu'il y avait, effectivement. Il y avait donc un violoniste et quelqu'un qui jouait sur un synthé, et donc qui jouait du clavecin au synthé, et qui avait mis des petits bruits d'oiseaux et de vent. Pour faire une ambiance un peu nature, je pense. Ce concert nous avait été arrangé par la mère d'un des élèves de l'école avec laquelle on travaillait, qui était musicienne, professeure de musique, donc, et qui me semble être une des créatrices de cette école de musique. Ouais. Et donc, il nous avait invités à venir parce qu'il allait avoir ce violoniste-là, qui était apparemment quelqu'un d'assez connu en Albanie, quelqu'un de réputé. On n'a pas réussi à glaner beaucoup d'informations sur cette musique-là parce qu'on avait quelques difficultés à communiquer avec eux, parce qu'ils parlaient un peu italien, mais rien d'autre que l'italien et l'albanais. Donc Gitanjali a quelques bases d'italien. On sait que c'est une musique qui était très ancienne, il nous a dit dans les 500 ans d'ancienneté. Il nous a dit que c'était une musique qui était d'habitude chantée. Donc en fait, c'est une musique qui est très longue. Là, on ne vous a passé qu'un seul extrait. Il y a deux parties très différentes. Donc une très longue partie qui est très lente et un peu sentimentale, comme ça, qui est d'habitude chantée par les hommes, et donc là, qui est jouée au registre grave du violon, et qui signifie la mort ou un événement triste. Et à la fin, il y a une très courte partie qui est très rythmée, et qui, elle, est jouée dans l'aigu et qui est chantée par les femmes et qui signifie que la vie continue et qu'on peut être gay après un événement triste.
Ouais, c'était une musique qui était traditionnellement chantée lors d'enterrements ou d'événements graves, donc qui se passait de main en main. Il nous expliquait que voilà, c'était vraiment une musique qui venait du patrimoine oral, donc c'était passé de maître en maître, et ils ont fini par la traduire de manière instrumentale. Donc c'est pour ça que là, c'est un instrument, mais traditionnellement, c'est chanté. Je reviens juste sur le fait qu'il parlait albanais et italien, ce qui peut paraître un peu étonnant. Mais c'est vrai qu'en Albanie, il y a eu très peu de relations finalement avec la puissance américaine et anglaise. Du coup, ils ont eu beaucoup plus de relations avec l'Italie, qui est finalement super proche. Si vous prenez une carte et que vous regardez où est l'Albanie, vous verrez qu'il y a la mer, forcément, qui sépare l'Italie et l'Albanie, mais c'est vraiment très proche. Puis, il y a eu aussi un protectorat italien en Albanie au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont des liens encore très forts. Et donc, c'est pour ça qu'ils parlent italien, ce qui pourrait nous paraître un peu étonnant. Et sinon, en Albanie, c'est vrai que ça a été, à part dans la capitale, ça a été très compliqué de communiquer, puisqu'effectivement, ils ne parlent pas anglais. Donc, ils parlent un peu italien, parfois, ou sinon que de l'albanais. Et donc, c'est vraiment, même si c'est la langue finalement la plus difficile à apprendre, c'est la langue qu'on a appris le plus, parce qu'on était obligés, pour essayer de se débrouiller, surtout qu'on est parti à la campagne, pour communiquer avec les Albanais.
Dans le sud, ils sont aussi de culture grecque. Donc, souvent, ils sont bilingues albanais et grec.
Alors, ensuite, on a quitté Elbasan pour retourner très rapidement à Tirana, parce qu'on avait des contacts grâce à l'ambassade pour essayer de rencontrer des musicologues ou des personnes qui étaient très engagées dans le milieu de la musique. Et on a rencontré un monsieur qui s'appelle Bessim Petrella, qui est un monsieur important dans le monde musical et qui œuvrait notamment pour la protection de la musique isopolyphonique. Donc c'est vraiment la particularité musicale d'Albanie qu'on était venu chercher. Et donc il nous a envoyé un listing de 5 groupes avec qui il avait l'habitude de travailler sur l'isopolyphonie. Donc juste des mails et des numéros de téléphone. Et donc on s'est amusé à téléphoner. Donc parfois on a parlé albanais, parfois on a parlé anglais, italien, français. Et finalement on a réussi à obtenir des rencontres avec ces groupes. Donc nous voilà partis de Tirana pour la côte sud. On va d'abord aller à Fier, une ville sur presque au niveau de la côte. On va rencontrer notre premier groupe d'isopolyphonie albanais. On écoute tout de suite un extrait.
Tu scolles mon dieu tous.
Ma le te go vosi de dingala. Ti yes di smera.
Ti yes di smera.
Moina,
ne, 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 ne,
mahe të tjetë, ki uzuaj shkret moj nane, një se vje,
një se të vje që e
se, është një tjetër, kjo është tjetër loj linje. Pasaj, është ajo që qana një refatin, një kolegu im. Aman radi ali malevila hisi çelua në hari
hari le
amel 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 mos e përti amel aman aman hisi çelua në hari More për të shkretën, pajgori.
Pajgori me.
Aman, aman, për të shkretën, pajgori.
Pajgori me.
Mune pusi Sulejmani, pusi je, qelo me.
Donc ça, c'était de la musique des Cham. Alors, les Cham, c'est une minorité, en fait, un groupe linguistique et géographique d'Albanais qui habitaient, en fait, dans le nord d'une région de Grèce, qui est actuellement présente dans la Grèce, qui s'appelle l'Épire, et donc qui ont été chassés, en fait, de cette région de Grèce après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont été accusés par les gouvernements grecs d'avoir collaboré avec les nazis et puis après d'avoir collaboré avec les communistes, donc pour véhiculer les idées communistes, ce qui est vraisemblablement vrai, mais ils auraient été pas mal instrumentalisés par les pouvoirs communistes et nazis qui leur promettaient une indépendance, une autonomie de territoire dans cette région de la Grèce du Nord. Donc ils ont été chassés et ils se retrouvent un peu partout en Albanie et précisément dans cette ville donc, qui s'appelle Fier et qui, on n'a pas réussi à savoir pourquoi, mais qui regroupe beaucoup de minorités, de groupes linguistiques différents de tout le monde albanais. Et donc voilà, c'était un chant particulier donc, de cette ethnie Cham. En langue albanaise, c'est C-C-D-A-M. En français, ça se dit Chamen.
C'est vrai que à la première écoute, ça peut paraître assez étonnant. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu, je me suis posé des questions sur cette musique qui a une structure très particulière. Peut-être que tu peux en parler, Lucas.
Ouais, en fait, je vais d'abord faire un bref aperçu de la musique traditionnelle en Albanie. Il y a deux traditions complètement différentes, au nord et au sud. Donc, prenons l'Albanie et coupons-la en deux. Elle est coupée en deux par un fleuve, je ne sais plus son nom. Et il y a deux groupes linguistiques qui peuplent l'Albanie, donc les Geg au nord et les Tosk au sud. Donc les Geg, eux, ils pratiquent une musique monodique, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une mélodie qui n'est pas doublée, qui n'est pas arrangée harmoniquement parlant, plus une musique instrumentale. Alors que chez les Tosk, c'est du chant choral polyphonique, donc. Après, il y a différents groupes et différentes traditions musicales. Il y a en particulier les Labs, qui sont une subdivision de ce groupe Tosk, qui, eux, chantent à quatre voix, alors que tout le reste des Tosques chante à trois voix. Et les chamans font partie de ce reste qui chante à trois voix. Donc les trois voix sont, je sors mes notes, le preneur qui se dit Marès en albanais, le rendeur qui se dit Kties, et l'Iso, donc l'Iso qui est le bourdon. Iso viendrait de Ison, qui est le bourdon dans la musique de la liturgie byzantine. Donc c'est une musique qui est très très ancienne, qui date d'avant, sûrement d'avant la domination ottomane, donc qui aurait aussi plus de 5 siècles, qui a perduré notamment grâce à l'isolement géographique de l'Albanie, qui est un pays très très montagneux. Une particularité pour la musique cham, c'est qu'il y a des instruments. Et ça vient du fait que dans l'épire, donc cette épire qui est à moitié grécophone, à moitié albanophone, la tradition musicale instrumentale est très présente, et notamment la clarinette est un instrument très utilisé. On aura l'occasion d'en entendre parler quand on descendra ensuite à Ioannina, qui est un peu le chef-lieu de cette région. Et donc voilà, c'est pour ça que là, il y avait de la clarinette.
Du coup, on peut peut-être vous faire écouter le second chant qu'on a enregistré avec ce groupe. Donc une tradition musicale qui est un peu différente. On va voir si vous entendez les différences.
De Prévez, c'est à Tchamoli, c'est très ancien. Vogel,
c'était un chant de la tradition lab, donc qui avait 4 voix. Oui, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances avec les polyphonies corses et d'autres polyphonies aussi dans le reste de la Méditerranée. Donc là, par rapport au chant des cham, il y avait une voix en plus qui s'appelle le lanceur, en fait, en albanais Edesi. Donc pour résumer, le preneur démarre. Le preneur, c'était Marès. Le rendeur répond et les lanceurs brodent autour. Mais il y a une autre différence, c'est que l'iso n'est plus une nappe sonore continue sur une seule syllabe, mais elle change de syllabe. C'est assez subtil, on ne le remarque pas forcément. Et parfois, elle est rythmée aussi. Ce bourdon est rythmé. Quand on était à Tirana et qu'on avait rencontré un musicologue spécialiste de l'isopolyphonie, on lui avait demandé qu'est-ce que racontent ces chants, et il avait dit il ne faut pas s'y intéresser, c'est pas déterminant pour cette musique-là. Et donc là, quand on avait demandé lors de cette rencontre à Fier, il nous avait dit que les chants de cham, par exemple, ça pouvait être des chants d'amour, des chants épiques, historiques, des chants de mariage. Et il nous avait dit aussi que c'était un répertoire qui était vivant et que les chansons s'écrivaient encore de nos jours.
Et on nous a aussi dit, si je ne me trompe pas, Lucas, qu'ils pouvaient aussi exprimer la tristesse d'avoir quitté leur patrie, donc la Grèce, d'avoir été chassés de la Grèce, et leur désir d'y retourner. Donc il y avait aussi un peu de détresse.
Ça, c'est spécifique à la musique cham, effectivement.
Alors, bien content de cette récolte musicale un peu particulière, on a continué notre descente vers le sud. Alors là, on était à Fier, on est à peu près... au centre du pays. Et puis, on va arriver à Vlora, donc la première vraie ville côtière qu'on rencontre. On nous avait dit que la côte albanaise était magnifique et on arrive à Vlora et on est un peu déçus parce que c'est une station balnéaire où le paysage a été pas mal défiguré. Mais bon, on doit juste s'y arrêter pour la nuit parce que c'est un peu loin d'aller jusqu'à Girocastër où on doit rencontrer notre deuxième groupe de musique. Et du coup, on a loué un petit logement et on s'arrête de nuit dans une épicerie pour acheter un petit morceau de quelque chose à manger. Et en passant à la caisse, on parle avec le vendeur, nous apostrophe et nous demande « Ah, qu'est-ce que vous faites là en anglais ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes des touristes ?» Et donc, on va lui expliquer très rapidement notre projet et notamment notre volonté de récolter de la musique traditionnelle. Et là, il nous dit, comme tout le monde albanais, « Ah, mais mon oncle, c'est le meilleur musicien d'Albanie. »
Le meilleur flûtiste du monde.
Ah oui, du monde. Faut que vous le rencontriez. Alors moi, du coup, bon enfant, je dis « Ah, mais oui, avec grand plaisir. » Et du coup, je lui laisse mon numéro de téléphone. Et le lendemain, dans la soirée, alors qu'on pensait... partir, on a un coup de téléphone d'un jeune lycéen qui me dit « Oui, je suis le cousin du neveu et mon papa, c'est le flûtiste, est-ce que vous voulez qu'on se rencontre ?» Alors nous, avec grand plaisir, on les invite et le lendemain, il vient ce monsieur qui s'appelait Vendin Kapay avec sa femme et leur enfant qui a une quinzaine d'années il va venir avec sa flûte nous faire un peu de musique. On peut écouter un petit morceau et après on vous explique ce que c'est cette tradition musicale.
Utiliser une flûte particulière, une flûte albanaise, une longue flûte en métal qu'il plaçait entre ses dents et sa lèvre supérieure et qu'il tenait complètement à la verticale. Et donc c'était une technique spécifiquement albanaise. Et c'est un enregistrement que moi j'aime beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose de rare. C'est une technique qui était complètement en train de mourir puisqu'elle était associée au monde pastoral en fait. C'était les bergers qui jouaient de cette flûte-là, jouer de cette manière-là pour tromper leur ennui quand ils étaient donc en train de faire paître leurs moutons. Il y a encore beaucoup de pastoralisme en Albanie, mais tous les bergers qu'on a vus, et Dieu sait si on en a vu, ils étaient non pas en train de jouer de la flûte, mais les yeux rivés sur un téléphone portable. Donc, les bienfaits de la modernité. Par exemple, le fils de ce bonhomme qui avait peut-être une soixantaine d'années quand même, était un jeune homme de 15 ans qui était habillé très à l'américaine, un peu gangsta rap, qui parlait très bien anglais. Et quand on lui a demandé s'il avait envie d'en jouer, il a dit « Ah non, surtout pas, surtout pas ». Donc ça illustre bien cette confrontation entre le monde traditionnel albanais qui est resté super vivant de par l'isolement de ce pays et la modernité qui est arrivée de plein fouet dans le pays dans les années 90.
Bah, du coup, ça illustre un peu ce qu'on a été voir ensuite. Alors, donc là, on était à Vlora, donc on est déjà bien au sud, mais il nous reste encore les 5 km pour arriver à la frontière. Et alors, on était bien fatigués et on s'est dit qu'on méritait quelques jours de repos. Donc, on s'est arrêté 2 jours dans un petit village qui s'appelle Tcheparo. Et là, on a vraiment pu voir à quel point le pays était magnifique et encore complètement préservé. Donc, en quittant Vlora, on prend la route et on va monter petit à petit sur un col, le col de Logorac. Et il faisait un temps pourri, on n'y voyait rien à 5 mètres devant nous. Et donc, on passe le col. Et tout d'un coup, de l'autre côté, on se retrouve donc sur le flanc de la montagne qui est super escarpé. Et en bas, une plage magnifique, complètement idyllique, où on voit vraiment les montagnes qui tombent dans la mer Méditerranée. Donc c'était vraiment, vraiment super beau. Et une route goudronnée qui est en train de construire, mais qui n'est pas encore arrivée à la plage. Et on se dit, zut, peut-être que dans 1 ou 2 ans, en fait, il y aura des super gros complexes balnéaires, mais pas encore. Et du coup, on finit donc de longer la côte albanaise par le sud. Et là, c'est que des petits villages, très peu de modernité, une tradition pastorale, des vaches partout sur la route. Voilà, c'est encore super, super traditionnel. Alors, on part de la côte pour se rendre à Girocaster, où on doit rencontrer ce deuxième groupe de musiciens. Donc, ça n'a pas été très facile de pouvoir contacter ce groupe parce qu'il parlait qu'albanais. Donc, on était en contact avec le petit-fils ou le fils du chanteur principal qui habitait, lui, à Tirana. Donc, vous êtes allers-retours au téléphone pour essayer de se comprendre. Et donc, en arrivant à Girocaster, il nous dit... oui, Girocaster, oui, c'est très bien, mais est-ce que vous pourriez pas pousser jusqu'à Tepelené? C'est pas très loin, en fait, ils sont à Tepelené, voilà, pour eux, ce sera plus pratique si vous pouvez venir. Alors, on reprend la voiture, donc Girocaster, c'était pas très grand, mais bon, ça restait une petite ville. On arrive à Tepelené, ça devient déjà un village. On arrive à Tepelené, on l'appelle. Oui, on arrive à Tepelené. Ah oui, mais est-ce que vous pourriez monter en fait un peu plus loin, prendre la route qui part du village jusqu'à Progonat? Vous êtes pas loin, ça a 15 minutes, il y a du goudron, tout va bien. Donc voilà, on reprend la voiture et on essaye de monter la montagne. Et puis on se rend compte que la route est bousillée, il n'y a pas du tout de goudron, des gros chaos partout. Et on se dit vraiment qu'on ne va pas pouvoir faire avancer sur cette route. Et donc, on s'arrête, on demande aux gens « Oui, est-ce que c'est là, Progonat ?» Ils font « Ah ben non, Progonat, vous êtes encore pour 1 heure, c'est tout en haut de la montagne. » Donc, on descend en catastrophe. Qu'est-ce qu'on va
faire ? La nuit était en train de tomber.
La nuit tombait. La grosse galère. On rappelle le jeune qui nous dit « Ah, mais il y a peut-être des transports en commun. » En même temps, on arrête un policier pour savoir comment on peut monter. On appelle notre professeur partenaire qui est resté à Elbasan pour qu'elle fasse la traduction. Finalement, un policier nous dit « Ah, mais il y a un policier qui habite là-bas. » Donc, qui appelle l'autre policier qui nous dit « Ah, mais j'habite à Progonat, je vais vous monter. » Et puis, finalement, on arrive à prendre ce transport. Donc, on monte avec ce policier qui, entre-temps, s'arrête à la station essence et nous fait pas monter si on remplit pas le plein de la voiture. On remplit le plein de la voiture et nous voilà partis sur cette piste monstrueuse pendant 1 heure au bord d'un ravin puisqu'on a monté des gorges magnifique, un paysage complètement idyllique. Et on monte la montagne. Voilà, on croise quelques voitures à l'arrêt, quelques villages et quelques bestiaux. Et on finit par arriver sur un plateau où là, il y a du goudron. Et dans une salle comme celle-ci, un peu, avec 0 décor, quelques tables dans la salle et un écran de télé géant, quand même, hein, avec Internet. Et tous les hommes, alors que des hommes qui sont en train de regarder le foot. Et ça a été le début d'une soirée assez fantastique, puisque quand le match a terminé, ils ont commencé à chanter de l'isopolyphonie à grands coups de raki, hein, donc l'alcool local.
Chaque chant durait environ 2 minutes, et à la fin de chaque chant, on trinquait au son de gezoar, qui veut dire santé, et donc on buvait un petit verre de raki, qui est un alcool quand même très fort, un peu comme le tipuro grec, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On a été complètement sous à la fin de la soirée, mais on avait enregistré de magnifiques chants albanais. C'était encore de l'isopolyphonie albanaise qu'on avait enregistré donc dans le petit village de Tcheparo, perdu dans la montagne albanaise. Donc c'était un chant de tradition lab, donc avec 4 voix. Peut-être plus rudimentaire et un peu moins professionnel que ce qu'on avait pu enregistrer à Fier. C'était vraiment des gens du village, n'importe qui pouvait venir participer à ce chant-là. Donc c'était vraiment dans sa forme vivante.
Bah, du coup, c'est vrai qu'on disait à Fier, par exemple, les personnes qu'on avait enregistrées, donc qui faisaient de l'isopolyphonie, ça allait de 40 à 70, 80. La musique, le flûtiste, c'était une personne aussi assez âgée, il disait qu'il n'y avait plus personne qui reprendrait la tradition. Et là, on se retrouvait vraiment perdu dans les montagnes. C'était principalement des jeunes qui chantaient. Et il y avait un petit garçon qui avait 6 ans, qui apprenait aussi à chanter, qui ne pouvait pas encore faire tout ce que les autres faisaient, mais qui apprenait quand même. Donc autant, c'est vrai que la modernité a petit grignoté le côté traditionnel, encore parce que ce pays est très très protégé de par ses reliefs, il y a encore un peu de tradition qui persiste et qu'on peut aller récupérer, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, on a pu le faire là.
Donc voilà, après ça, on a continué notre route vers le sud, on a fait quelques arrêts plus de visites touristiques, on pouvait se permettre à la fin. Et on a passé la frontière grecque, donc dans le nord de la Grèce, dans le nord de l'Épire. C'est passé comme une lettre à la poste, sans visa, pas de problème. Les douaniers grecs ont été très sympas. Et la suite au prochain épisode.
On arrive donc à la fin de cette émission. Donc merci Gitanjali et Lucas pour cette émission consacrée à l'Albanie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans le public au cas où avant de terminer. Je vais vous passer le micro.
Vous avez dit ils étaient immigrés, les grands-parents avaient fui devant les nazis. Ils venaient d'où donc ? Ils venaient d'Allemagne, ceux-là ou...
Non, ils venaient de France. Après, on ne sait pas quelles étaient leurs relations avant avec l'Albanie, pourquoi ils se sont retrouvés en Albanie. On ne sait pas non plus s'ils étaient juifs et donc ils fuyaient la répression. Ça. C'est vrai que cette partie-là de l'histoire de notre hôte, Clauda, donc à Tirana, on ne l'a pas su. Déjà, quand elle nous a parlé de ça, c'était avec beaucoup d'émotion et on a préféré ne pas insister pour connaître plus profondément l'histoire.
Merci.
Après, on a su... Elle est repartie en France. Elle a pu revoir sa maman, donc vraiment des années après. Elle avait déjà, je crois, 30 ou 40 ans. Et elle a aussi découvert, du coup, la famille que sa mère avait fondée en France après qu'elle soit partie. Et donc maintenant, elle a des relations très étroites avec la France, puisqu'elle va très régulièrement voir, du coup, toute sa belle famille, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et toute sa famille là-bas.
D'autres questions ? Alors, merci Lucas et merci Gitanjali. À tout bientôt, cette fois en Grèce.
Eh bien, merci à Radio Olive et merci à l'abbaye Vinsobrez aussi de nous accueillir dans ces locaux. Et à la prochaine fois.
Rendez-vous en Grèce.
Ensemble.
Ici.
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 Ici. Radio Livre.
Radio Livre.
Radio Livre.
La radio des initiatives.